critique.
Raphaël Bourgois. Les idées au banc d'essai, avis critique, explorent toutes les disciplines et les indisciplines. Ce soir, comme chaque semaine, deux essais sous les feux de la critique, deux livres qui se penchent sur la fonction du roman national, l'un en France, l'autre en Russie. Dans La République et l'Islam, publié chez Talendier, l'historien Pierre-Jean Luisard s'intéresse au passé colonial pour étudier 10 épisodes fondateurs de la mission civilisatrice de la France et s'interroger sur la possibilité de trouver dans notre histoire une explication du terrorisme au nom de l'islam, un sujet sensible s'il en est. Autre latitude, autre problématique, c'est au roman national russe que Galia Ackerman consacre son dernier livre, Le Régiment Immortel aux éditions Premier Parallèle. Elle s'intéresse notamment aux célébrations de plus en plus fastueuses et populaires de la fin de la Seconde Guerre mondiale qui associe politique, militaire et civil. L'historienne et journaliste nous met en garde contre les ambitions messianiques et géopolitiques de Vladimir Poutine. Et en studio pour parler de ces deux livres ce soir, Joseph Confavreux de Mediapart. Bonsoir Joseph.
Bonsoir Raphaël.
Et Jean-Marie Durand, journaliste indépendant. Bonjour Jean-Marie.
Bonsoir.
Je vous propose de commencer par le livre de Pierre-Jean Luisard, La République et l'Islam aux racines du malentendu, publié aux éditions Talendier. Pierre-Jean Luisard est historien, directeur de recherche au CNRS. Les travaux de ce spécialiste de l'islam au Moyen-Orient portent notamment sur le clergé chiite en Irak, le réformisme musulman et l'islam populaire tel que les confréries soufis en Égypte. Depuis plusieurs années, il cherche surtout à comprendre les sources de l'émergence et du soutien au djihadisme dans son articulation à l'islamisme politique. C'était par exemple l'objet de son livre « Le piège Daesh, l'État islamique ou le retour de l'histoire » qui avait été publié à La Découverte en 2015 et dans lequel Luisard replaçait les succès alors de l'État islamique dans le contexte de déliquescence des États de la région, notamment l'Irak et la Syrie. Il mettait au jour des logiques moins visibles, locales autant que mondiales, sociales autant que religieuses, dont les racines remontaient à l'époque où l'Europe dessinait les frontières actuelles du Moyen-Orient au siècle dernier. Donc, la démarche est sensiblement la même dans ce nouvel essai qui cherche à déterminer si le terrorisme au nom de l'islam pourrait trouver une explication dans notre propre histoire. La question est sensible, je le disais, tant une approche identitaire de ces sujets a pris le pas sur tout le reste ces dernières années, mais l'historien ne dévie pas de son programme d'historicisation du phénomène. Il se penche sur des épisodes comme l'expédition d'Égypte de Bonaparte, l'éloge de la colonisation par Jules Ferry ou la méconnue affaire Sarraï en Syrie pour montrer le contraste entre d'un côté les idéaux laïques et universalistes professés par la République et de l'autre la réalité de la colonisation, un contraste qui a eu des conséquences sur la perception de ces idéaux dans les pays arabes. Un sujet, je le disais, délicat, Joseph Confavreux.
Délicat, mais que Pierre-Jean Luisard sait très bien traiter. Hein. Il faut le resituer, il est moins connu que les Olivier Roy ou Gilles Kepel, mais il fait partie des vraiment connaisseur de l'islam, spécialiste de l'Irak, ce qui lui avait permis d'être le premier, vous l'avez dit Raphaël, à faire un livre un peu consistant sur le phénomène Daesh dès janvier 2015, en montrant que c'était pas l'irruption de barbares sans motivation, mais bien, au fond, le retour d'une histoire longue et à mains égards tragique. Alors là, il essaye de faire la même chose sur les racines du malentendu entre la République et l'islam, avec en fait une thèse forte qui est de dire que la République s'est comportée de telle manière, la France s'est comportée de telle manière en terre arabe que elle a fait de l'islam au fond un vecteur d'anticolonialisme. C'est ça sa thèse principale, que l'islam réformiste, qui n'était pas au début, est devenu une idéologie anticoloniale et que c'est ça qui a fait sa puissance. Pour ça, il examine une borne chronologique qui va de l'expédition de Bonaparte en Égypte jusqu'à cette fameuse affaire Sarraï dont on va reparler en 1925. C'est vraiment une très bonne enquête historique, on y apprend beaucoup de choses, il y a des choses qu'on sait aussi un peu déjà, parce que c'est quand même un sujet, la République et l'islam, où il y a eu beaucoup de publications quand même ces dernières années. Peut-être que c'est un peu moins problématisé que le piège Daesh, parce qu'il s'arrête justement en 1925, donc on voit bien que ça pèse dans l'histoire française, dans la manière dont aujourd'hui encore la France espère vainement à écouter Jean-Louis Zard créer un islam de France encadré, parce qu'au fond ça rappelle trop la manière dont la France avait déjà voulu encadrer l'islam en terre arabe. Mais il manque peut-être un peu la période, pour moi, 1925 jusqu'à aujourd'hui, qui fait que bah, c'est très intéressant, mais ça se lit comme un manuel d'histoire.
Oui, c'est vrai qu'il s'arrête à cette affaire Sarraj, donc il y a 1925 en Syrie, donc qui est à l'époque non pas une colonie mais un mandat français. On y reviendra évidemment. Et c'est vrai que le livre Jean-Marie Dior ne répond pas à tout ce qu'on a pu lire. Je sais pas, par exemple, Hakim El-Karoui récemment sur la réforme de l'islam en France, ou d'autres livres, évidemment, qui traitent de cette question-là. C'est plus sur les racines du problème.
Il est sur un travail plus archéologique. C'est vrai qu'il y a, même dans son précédent livre, en effet, sur le piège Daesh, c'était déjà un peu cette démarche, comme vous l'avez dit, de trouver un peu dans les plis un peu cachés de l'histoire moderne, du 19e siècle notamment, l'histoire coloniale sur laquelle on va revenir, trouver dans ces plis finalement l'origine du chaos actuel. Alors évidemment, c'est une manière de décentrer un peu le regard, de le décoller un peu, disons, de l'actualité immédiate, hein. Donc il y a quelque chose comme ça qui est évidemment comme ça un peu étrange, mais en fait ce qui est intéressant justement c'est que c'est pas un travail d'anachronisme. Il s'agit pas de dire que Bonaparte ou Crémieux ou Gambetta ou Jules Ferry, tous les héros comme
sont
ça
aujourd'hui générique. Les bêtes noires de Daesh,
exactement, ouais. Mais en revanche ce qui est intéressant c'est le raccord qu'il fait, c'est un raccordement entre cette histoire coloniale un peu mythifiée dans notre propre roman national. Évidemment on a tous été nous-mêmes bercés à l'école républicaine comme voilà par les grands mythes des colonisateurs de Jules Ferry et Gambetta. Et en même temps, et ce qui est intéressant dans ce travail de Luisa, d'archéologie historique, c'est de rappeler que finalement l'impact de cette mission civilisatrice de la France dans notre actualité. Donc c'est un raccordement électrique, voire explosif, si on peut se permettre ce jeu de mots. Donc évidemment, la thèse, comme le disait Joseph à l'instant, est assez forte. C'est quand même d'expliquer que le décalage comme ça historique peut exister entre l'islam et la République française, qui, au nom de ses valeurs universalistes et laïques, a voulu imposer son ordre dans les colonies du monde arabe et de l'Afrique du Nord au XIXe siècle, finalement a créé comme ça un énorme malentendu, au point de d'assigner finalement les musulmans à leur propre religion en les excluant de la citoyenneté française. Notamment il y a un chapitre important, un peu central dans le livre, qui est sur la question de la loi de 1905, notamment en Algérie, où on a empêché aux citoyens musulmans d'être citoyens français, à l'inverse des citoyens juifs que le décret Crémieux autorisait. Et c'est une manière aussi d'incarner un peu ce décalage là comme si la République française laïque imposait aux musulmans leur propre identité religieuse et finalement les dissociait d'une citoyenneté. Et donc c'est tout le problème. Et donc c'est pour ça que l'islam réformiste s'est créé aussi dans ce combat contre la République, République coloniale. D'où le malentendu actuel.
C'est vrai, Joseph Confavreux, on lit souvent, quand on lit des essais sur la question de l'islam aujourd'hui encore une fois en France, le problème des musulmans, c'est qu'ils ont une religion qui ne fait pas la distinction entre la société, entre le politique et le religieux. Et en fait, Pierre-Jean Luisard, il inverse complètement la chose. Il nous dit, en fait, le choc colonial a radicalement transformé l'islam et a renvoyé les musulmans, non pas à une espèce d'identité naturelle qui reviendrait de leur religion, mais la renvoyer politiquement à la nécessité de ne pas faire cette distinction, parce que faire cette distinction, c'est se mettre du côté des colonisateurs. On le voit avec le chapitre sur le décret Crémieux, on le voit...
Le décret Crémieux qui est de 1870.
Hein, oui, mais qui va de 1950, c'est un autre chapitre.
Ouais. Ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il montre, parce que comme on a cette image de Jules Ferry à la fois le grand colonisateur de la République et en même temps le créateur de l'école laïque, gratuite et républicaine, on se dit que c'était vraiment déjà l'exportation de la laïcité, qui est quelque chose qui a été longtemps reproché à la France. Et en fait, Pierre-Jean Luisard, comme il est très précis, il dit que non, c'est pas ça, c'est pas d'emblée un projet de laïciser des pays, c'est au contraire, parce que au fond, la France veut imposer une distinction entre, comme vous l'avez dit Raphaël, le spirituel et le temporel, que, en retour, face au fait que, en plus, il y a une trahison de cette promesse, puisque en même temps on construit un code de l'indigénat, en fait on renvoie, comme le disait Jean-Marie, les musulmans, on les assigne au fond à leur religion, et l'islam réformateur, qui est encore une fois pas tout l'islam, va au contraire dire, non, cette distinction que vous me demandez absolument de faire, et qui remonte aussi, il y a des très beaux passages sur les Saint-Simoniens, sur comment ils pensent...
Notamment au moment de la conquête de l'Algérie.
Ça c'est un des points, je pense, aussi importants, c'est de montrer que la République a été beaucoup plus violente dans la colonisation que le Second Empire. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la République qui va créer l'Empire, alors que le Second Empire est sur un mode assez paternaliste, mais inspiré par les Saint-Simoniens, pense une colonisation dite douce. Bon, dont Pierre-Jean Luzard montre qu'elle est, elle est en partie illusoire, mais on voit bien que voilà, c'est pas forcément l'identité, c'est-à-dire républicaine, laïque, qui va faire les racines du malentendu. C'est plutôt la manière dont se construit, et notamment en Algérie, hein, il a vraiment des passages très intéressants, c'est-à-dire que il y a la loi de 1905 de séparation de l'Église et de l'État qui n'est pas appliquée en Algérie, il y a le décret Crémieux qui va séparer les Juifs et les musulmans, mais il remonte, alors moi ça je connaissais moins, au Senatus Consulte de 1865 où Napoléon III en fait donne aux Juifs et aux musulmans la possibilité d'opter pour la citoyenneté française. Ils sont déjà sujets français au sens ils ont la nationalité française, mais il leur dit vous pouvez opter pour la citoyenneté française, c'est-à-dire avoir les mêmes droits civiques et politiques, à condition de renoncer à votre statut personnel, c'est-à-dire la loi de l'islam pour les musulmans et la loi mosaïque pour les juifs, ce qui, en fait, et pour les juifs et pour les musulmans, est inacceptable. Et d'ailleurs, aucun ne vont le faire volontairement.
Il y en a une trentaine par an, dit-il.
Oui, il y en a une trentaine par an, parce que, en fait, de fait, ce statut personnel, comme on l'appelle, organise tous les grands événements de la vie des individus, de la naissance à la mort, en passant par le mariage. Et donc, y renoncer, ce serait renoncer à une identité. Et en plus, vu que c'est le pouvoir colonial qui l'impose, trahir sa communauté. Et d'ailleurs, c'est là, quand il analyse le décret Crémieux, il montre bien qu'au fond, c'est Crémieux, qui est lui-même d'origine juive, qui considère, en gros, comme beaucoup de juifs français, qu'il faut émanciper les juifs d'Algérie, qui va leur donner la citoyenneté française, mais sans leur donner le choix. Parce qu'en 1865, ils l'avaient, la plupart, à part une petite centaine, ne l'ont pas choisi, et par contre, en 1870, 30 000 d'entre eux deviennent d'un coup citoyens français.
Alors peut-être pour compléter ce tableau et avancer un peu aussi un peu dans l'histoire, comme le fait Pierre-Jean Luizard, on a compris, il y a une réaction, invasion coloniale, il peut y avoir aussi une réaction à la conséquence, notamment de partis qui se revendiquent du républicanisme, de la laïcité. On pense évidemment, par exemple, en Irak et en Syrie, au Parti Basse. On pense aux Kémalistes en Turquie. On pense à la Tunisie de Bourguiba. Tout ça, c'est mis en avant par Pierre-Jean Luizard, c'est analysé dans l'évolution de l'islam, dont il dit qu'il y a eu un choc colonial qui a radicalement transformé l'islam, notamment par rapport au soufisme donc qu'il connaît bien comme résistance au colonialisme, ce qu'il appelle le revivalisme et le salafisme, et la sortie du quiétisme à la sortie des années 70 et 80, voilà, jusqu'à la question du réformisme et du wahhabisme, des termes qu'on va pas redéfinir ici, qui sont dans l'espace public, peut-être qu'on aura l'occasion d'en dire un petit peu plus, mais c'est pour dire que Pierre-Jean Luizard ne s'intéresse pas que à l'influence directe des colonisateurs français, mais aussi à l'influence indirecte.
Tout à fait. Alors, juste pour rappeler quand même que c'est vrai qu'intéressant dans ce choc colonial, c'est que, à la différence de la colonisation du XVIe et du XVIIe siècle qui se faisait au nom comme ça de valeurs chrétiennes, c'était vraiment le projet vraiment de christianisation du monde. Là, il y a vraiment l'idée de coloniser ces pays au nom des valeurs modernes. C'est la modernité qui est le vecteur de cette colonisation. D'où l'ambiguïté aussi finalement dans ce décalage là entre finalement cette prétention à moderniser des pays et en même temps à les exclure de cette modernité entre guillemets. Donc, ce qui est intéressant, c'est finalement de voir un peu sur toute cette durée. C'est ce que Luizard raconte assez bien, de Bonaparte en effet à Clémenceau, c'est comment finalement un même fil est tiré comme ça pendant plus d'un siècle sur cette idée justement d'assigner comme ça ces musulmans à leur religion. Et c'est vrai que il le dit à un moment, il y a une expression assez intéressante dans son texte, il dit qu'en politique les non-dits peuvent être implicites, inconscients ou circonstanciels, ou parfois les trois à la fois. Il y a quelque chose comme ça, comme une volonté presque en effet inconsciente d'induire comme ça un état nouveau et de pousser comme ça les musulmans dans un combat anticolonial au nom de la politique, au nom finalement justement de leur combat pour leur propre citoyenneté. Et c'est vrai qu'il y a une naïveté dans les colonisateurs français du 19e. Ils sont arrivés en disant avec leur bonne conscience, les Saint-Simoniens, le chapitre Saint-Simonien est assez symptomatique. Il y a vraiment l'idée d'arriver avec l'idée de défendre la science, le progrès, l'émancipation des peuples, sans mesurer complètement finalement les effets entre guillemets pervers que cette assignation-là et cette importation comme ça des idées pouvaient susciter. Et c'est tout le problème.
Oui, il s'agit pas sous la plume de Pierre-Jean Luizard, donc dans ce livre, La République et l'Islam aux racines du malentendu, publié chez Talendier, il ne s'oublie pas de nier la volonté politique le fardeau de la civilisation porté par la République, rien que de le dire comme ça, c'est vrai qu'on voit bien aujourd'hui les problèmes que ça peut poser. Il ne s'agit pas non plus d'être normatif, moralisateur, de juger, c'est vraiment en historien qu'il s'attaque, qu'il s'attaque à la question, parce qu'évidemment, j'imagine qu'un certain nombre d'auditeurs qui nous écoutent pensent à la question de la repentance. Voilà, ils pourraient penser que ça s'inscrit dans un mouvement un peu de, oui, comme je le disais, de repentance. Or, il s'en défend et c'est pas du tout ça, Joseph Coffin.
Non, et d'ailleurs, ça se voit puisque ce qu'il appelle l'offensive laïque des années 1920-1930, qui est particulièrement forte en Turquie et en Iran, enfin en Perse, se joue moins entre le colonisateur lui-même et ceux qu'on va finir par appeler l'islamiste, qui est un terme qui n'existe pas vraiment à l'époque, mais à l'intérieur de l'islam lui-même. C'est-à-dire qu'on a des régimes qui, alors sous l'influence de l'Occident, sous l'influence aussi des francs-maçons, dont ils montrent une certaine influence, vont construire des régimes ultra-laïques, parfois plus laïques que la République française, et que c'est ça qui, à l'intérieur de ces pays, va susciter des réactions d'un islam réformateur, mais des fois réformateur, en appelant du coup à des catégories très rigoristes, et notamment l'appel aux pieux ancêtres, la traduction de salaf, qui donnera le mot salafisme. Donc à chaque fois, il n'est pas du tout sur un jugement moral, même si ce qui trame le livre, et qui est quand même vraiment intéressant, c'est qu'il dit qu'au fond, on n'a jamais laissé aux musulmans la possibilité d'être musulmans et français. Ils ont toujours dû refaire un choix. C'est que soit, enfin, ils avaient le droit de rester musulmans, mais dans ce cas, il fallait vraiment l'intérioriser, le garder pour l'intérieur de son cœur ou de sa maison. Mais sinon, il n'y a jamais eu cette idée qu'on pouvait être à la fois musulman et français, et voir musulman, français parce que musulman, et pas français parce qu'en dépit du fait qu'on est musulman. Et on a l'impression que ça, c'est vrai que ça rejoue encore aujourd'hui. C'est-à-dire que encore aujourd'hui, vous parliez des propositions d'Hakim El-Karoui, il y a la volonté sans arrêt de la République française d'organiser l'islam de France, et il dit, au fond, ça rappelle trop la formation des imams, la recherche d'instances représentatives, le fait de s'appuyer sur quelques élites, ça rappelle trop une histoire qui était trop parallèle à l'histoire coloniale pour être vécu autrement que comme un rejet de cette histoire coloniale, même si les contextes sont différents.
Oui, même si, il le dit bien Pierre-Jean Luizard, les personnes concernées n'ont pas forcément la connaissance aussi fine que la sienne. Personne ici ne l'avait d'ailleurs autour de cette table avant de lire le livre de Pierre-Jean Luizard, de tous ces événements. Mais il y a une conscience, évidemment, de tout ça. Jean-Marie Durand, ce que disait Joseph, l'islam qui est réprimé, qui doit se cacher, qui devient une pratique intériorisée, c'est ce qui en fait, selon Pierre-Jean Luizard, une idéologie de combat. Il donne un certain nombre d'exemples.
Colonial, tout à fait. Et au nom précisément de la lutte contre ce fait colonial et contre, en effet, la laïcité, qui a incarné en effet des partis comme l'Iran de Pavli, la Tunisie de Bourguiba, les partis basses en Irak, Syrie. Non, moi, ce que je trouve évidemment très fort dans le livre, c'est de rappeler. Nous rappeler cette histoire coloniale qui n'est pas, en effet, comme vous le disiez, pas du tout de l'ordre de la repentance, mais comme une sorte d'examen, au nécessaire, historique, à intégrer, finalement, à cette réflexion-là. Alors, évidemment, le livre, il est très documenté, il est un petit peu sec, dans sa démonstration. Et à la fin du livre, on a envie de se dire, mais bon, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, finalement? C'est ça le problème, c'est que, on est tous, je pense, d'accord pour se dire qu'il y a un problème avec notre histoire coloniale et qu'il faut évidemment l'examiner, la réinterroger, la remettre en perspective, parce que elle nous aide forcément à comprendre mieux notre présent. Mais en même temps, si l'islam, comme le dit Pierre-Jean Luizard, s'est construit un peu comme une sorte de miroir inversé des valeurs républiques et laïques, qu'est-ce qu'on fait de l'islam aujourd'hui dans notre société? Comment on l'associe à notre république? Et c'est une question qui finalement reste complètement un angle mort du livre. Et alors,
oui, c'est plus qu'un angle mort.
C'est pas son objet,
il y a une inadéquation entre l'islam tel qu'il est aujourd'hui et les principes républicains.
Voilà. On voit bien que c'est pas l'objet de son réflexion sur ce livre-là. Ce livre est un livre d'histoire qui, en effet, est là pour vraiment nous éclairer sur un peu, en effet, nos propres impasses et sur notre histoire. Mais on a envie de dire à la fin du livre, bon, comment on avance?
Que faire, camarade?
Qu'est-ce qu'on fait de cette histoire-là, justement?
D'ailleurs, même si il essaye de ménager un petit peu la chèvre et le chou à la fin, en rabibochant Olivier Roy et Gilles Kepel,
c'est un peu rapide.
C'est autant la radicalisation de l'islam que l'islamisation de la radicalité à laquelle on assiste. Voilà, c'est un double mouvement. Joseph Coffin.
Oui, c'est étonnant parce que c'est un livre qui fait quand même écho à un autre, qui était le livre de Jean-Pierre Filu, paru à la Découverte il y a 2-3 ans, qui s'appelait Les Arabes et nous, enfin en gros. Et c'est intéressant parce que le livre de Jean-Pierre Filu, qui est un des autres grands spécialistes de l'islam avec Luizard, Roy et Kepel, partait du bombardement de la Ghouta, notamment de Damas, en 1925, avec lequel Pierre-Jean, par les forces françaises, confrontées à une révolte, notamment des Druzes, mais qui s'étend à toute la Syrie à cette époque, alors que Pierre-Jean Luizard ferme quasiment son histoire avec ce même épisode.
Et du coup, donc l'affaire Sarraï qu'on a évoquée.
Voilà. Et là où Jean-Pierre Filu allait peut-être un peu plus loin, du coup, c'est-à-dire nous permettait de donner un peu des prix sur qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, c'est vrai que Pierre-Jean Luizard ne le fait pas. Et je trouve ça assez symptomatique au moment de la conclusion. Il dit bien que la mondialisation a effacé les différences entre les conséquences des différents types de colonisation. La Grande-Bretagne, qui avait été beaucoup plus pragmatique, qui avait moins la volonté de porter un universel civilisationnel comme la République française. Et il dit, bah, force est de constater que les résultats sont les mêmes à quelques nuances près. La Syrie et l'Irak se retrouvent dans le même tourbillon, entraînant l'État vers sa chute et la société vers la division confessionnelle. Et je trouve que cette conclusion, d'une certaine manière, fragilise son projet, qui est de comprendre à travers l'histoire, alors que les histoires des colonisations française et britannique sont très différentes, et bon, on se retrouve aujourd'hui avec des situations à peu près similaires. Et donc là, c'est, on se dit qu'effectivement, il manque un peu la période 1925 à aujourd'hui.
Ce sera peut-être un prochain livre pour Pierre-Jean Luisard. Donc, Pierre-Jean Luisard, La République et l'Islam, aux racines du malentendu, c'est le sous-titre, et c'est aux éditions Talendier.
France Culture, avis critique,
Raphaël Bourgois. Deuxième temps de l'émission, je vous propose de nous pencher maintenant sur le livre de Galia Ackerman, Le Régiment Immortel, la guerre sacrée de Poutine, publié aux éditions Premier Parallèle. Galia Ackerman est une historienne d'origine russe qui vit à Paris depuis 1984, comme elle le rappelle. Dans ce livre, elle est également journaliste pendant un temps pour la radio RFI et à la revue Politique Internationale. Elle connaît particulièrement bien l'Ukraine et a notamment publié plusieurs ouvrages sur Tchernobyl, dont le dernier, Traversée de Tchernobyl, avait paru déjà aux éditions Premier Parallèle, c'était en 2016. Engagée depuis plusieurs années dans une entreprise de déconstruction et de critique du poutinisme, Galia Ackerman en est venue à s'interroger sur le sens des manifestations qui accompagnent depuis quelques années les célébrations de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Chaque 9 mai, les Russes sont invités à défiler dans les rues de Moscou, mais aussi en Russie et dans le reste du monde, en mémoire de la Grande Guerre patriotique. Un phénomène surprenant quand, rappelle l'historienne, il n'y avait pour ainsi dire pas eu de défilé militaire pour l'occasion jusqu'en 1995. À partir de cette date, ils deviennent annuels et incluent, en plus des militaires, ce fameux régiment immortel composé de civils, Vladimir Poutine en tête, défilant avec la photo d'un ancêtre blessé ou mort dans la guerre contre les nazis. Galia Ackerman s'interroge sur l'origine du phénomène, ce qui l'a fait se replonger dans l'histoire longue de la Russie, le messianisme hérité de l'époque tsariste, perpétué à l'époque soviétique, mais aussi plus récemment sur le nouveau rôle géopolitique que la Russie entend jouer. Jean-Marie Durand, c'est un livre qui nous révèle d'abord à quel point il est difficile pour nous occidentaux, quand on n'est pas familier de la Russie, de comprendre à quel point l'univers mental de ce pays est différent du nôtre.
Oui, en même temps, en lisant le livre, j'ai des souvenirs de mon enfance devant la télé, où j'ai regardé Yves Mourouzi, où le journal télé, et on avait toujours les défilés militaires sur la place Rouge, où je à la grande époque de Brejnev.
Non, moi je me souviens donc, pas, j'étais pas né sous Brejnev.
Et donc, si vous voulez, c'est cette image comme ça de défilés militaires en Russie, à l'époque ça s'appelait encore l'URSS, était assez familière. Donc de cette manière, les voir aujourd'hui réactivés, c'est assez curieux. Alors en effet, comme vous l'avez dit, ces défilés avaient un peu quand même disparu à un moment quand même dans l'histoire récente. Et en effet, ils sont réapparus au début des années 2010, donc dans un petit village qui s'appelle Tomsk au départ, qui donc en effet des défilés civils, hein, qui n'étaient pas du tout militaires. En effet, vous l'avez rappelé, des citoyens russes qui, comme ça, célébraient les morts au nom d'un patriotisme, au nom de la Grande Guerre. Et un mouvement intéressant que Poutine, de manière extrêmement, j'allais dire, cynique, instrumentale et habile, a su récupérer pour en faire, en effet, l'occasion d'une sorte de vitrine du patriotisme, du nationalisme russe et de son invincibilité, ce qui est le grand concept un peu clé qui traverse ce livre, puisque en effet, à partir de cette réactivation de ce qu'on appelle le régiment immortel, Galia Kerman fait une sorte de généalogie un peu de cette histoire-là, de cette invincibilité du peuple russe, en effet en la faisant remonter, comme vous l'avez dit, à l'époque tsariste, hein, à la Sainte-Russie, donc on remonte là jusqu'au XVIe siècle, et elle a une manière un peu d'essentialiser un tout petit peu quand même, je trouve, cette manière que les Russes de se croire supérieurs aux autres. Elle le rappelle en détaillant notamment...
Je sais pas si elle l'essentialise, mais si elle rappelle que ça a toujours été un objet politique, une utilisation politique.
Mais elle évoque l'histoire de l'art, l'histoire de la littérature russe, Dostoïevski lui-même, mettant en avant comme ça la force, l'exceptionnalité de ce peuple, jusqu'à aujourd'hui, évidemment, en passant par évidemment la période communiste, qui a été évidemment un autre moment important, et la Seconde Guerre mondiale, qui aujourd'hui devient un peu la matrice un peu de cette fierté du peuple russe, réactivée aujourd'hui par Poutine de manière extrêmement, évidemment, politique et voilà, notamment parce que l'effondrement de l'URSS a suscité évidemment une sorte désarroi chez les Russes et ça a été pour eux, en réactivant ces souvenirs-là, comme ça, d'un peuple vainqueur, quitte à réécrire complètement l'histoire, parce que de fait, cette histoire est complètement réécrite aussi. Donc, notamment, l'association de Staline à Hitler est oubliée des livres d'histoire.
On n'est pas que dans l'agression,
voilà.
Ouais.
Mais ce qui est intéressant, c'est quand même de voir comment aujourd'hui, la Russie est soumise comme ça à cette travail de relecture et de mythification d'elle-même, qui est assez sidérant, bon, et notamment dans la manière dont Poutine aussi met en place une politique très concrète, hein, puisque il crée, on va en parler peut-être, des parcs d'attractions militaires. Enfin, il y a quelque chose comme une sorte de d'emprigonnement même de la jeunesse qui est assez sidérant.
Ouais, si les enjeux de mémoire sont très sensibles en France,
oui,
on en parlait un petit
loin,
peu lors de la première partie sur le Pierre-Jean Luzard, sur la question notamment de la colonisation, ça n'a rien à voir, c'est sans commune mesure, Joseph Confavore, avec ce qui se passe en Russie.
Ah oui, là, c'est la réécriture permanente de l'histoire, de la mémoire, l'organisation du négationnisme, hein, historique, parce qu'il faut bien appeler les choses par leur terme.
Notamment le fameux massacre de Katyn.
Le massacre de Katyn, le pacte Molotov-Ribbentrop. Enfin voilà, il y a vraiment... aujourd'hui, on est face à... Alors, d'ailleurs, c'est intéressant. Elle dit bien que, attention, c'est pas parce qu'il y a un négationnisme historique officiel à l'œuvre que ça veut dire qu'on est dans un état totalitaire. En fait, il peut y avoir une histoire critique, il peut y avoir quelques médias indépendants, mais l'État encourage une histoire dite positive pour réconcilier les Russes avec leur passé. Et il y a effectivement, du coup, au fil du livre, beaucoup de choses intéressantes. Moi, je serais quand même un petit peu plus sévère. Je voudrais pas qu'on croie que c'est exactement le même projet que Pierre-Jean Luisard, qui est quand même un vrai historien. Il me semble que Galia Kerman, on est quand même plus dans du journalisme, et des fois du journalisme un petit peu... plat, un peu facile. Enfin, pour moi, il y a deux problèmes en fait dans ce livre. Avant que encore, on dira des choses intéressantes. C'est que je sais pas qui disait que la plupart des livres auraient mérité d'être des articles et la plupart des articles auraient mérité de pas être écrits. On est dans ce cas-là, c'est-à-dire que ça s'appelle le Régiment immortel. Le Régiment immortel, elle en parle page 159 pendant un chapitre. Et avant, on se retape toute l'histoire de la Russie. Moi, je trouve de manière un peu plate et longue. Ça, c'est un des soucis. Et le deuxième souci, c'est que ce livre, il vient après cet immense livre qui était La fin de l'homme rouge de Svetlana Alexievitch, qui est quand même sur le même sujet. Qu'est-ce que c'était que l'homo sovieticus, l'importance de la grande guerre patriotique, le désarroi complet qu'a créé l'éclatement de l'URSS. Et donc, je demande pas à chaque journaliste de se comparer à une prix Nobel de littérature, mais comme elle prend exactement le même sujet, forcément l'effet comparatif est là et un peu dévastateur pour Galia Kerman.
Elle cite beaucoup, hein, Svetlana Alexievitch, dans ce livre Galia Kerman, le régiment immortel, la guerre sacrée de Poutine. Il se trouve quand même que Svetlana Alexievitch n'avait pas pu analyser l'utilisation par Poutine à travers notamment cette figure du régiment immortel. Jean-Marie Durand, vous avez aussi été un petit peu ennuyé, j'ai envie de dire, par toute la première partie qui nous ramène, je le dis encore une fois, vers la Russie tsariste, vers l'utilisation aussi du nationalisme par la période soviétique et qui nous rappelle que, par exemple, des thèmes comme l'expansion naturelle de la Russie, la notion aussi de compatriote assez large, au-delà de la seule Russie historique, on va dire, sont des notions qui sont héritées de l'histoire et qui sont aussi aujourd'hui des outils politiques aux mains de Poutine.
Oui, non, moi je trouve que avec les réserves que Joseph vient de donner, que j'entends et qui sont évidemment complètement légitimes, il y a quand même un propos qui est assez cohérent, assez vif et qui, je pense, en tout cas pour un lecteur comme moi, pas forcément hyper spécialiste de l'histoire russe, pourra évidemment éclairer beaucoup, parce qu'il y a quand même, malgré tout, c'est une synthèse, un concentré quand même assez rapide et assez éclairant quand même de l'histoire russe sur le long terme, qui d'ailleurs, je trouve encore une fois, est glaçant hein, quand même, il y a quelque chose. Et en fait, si le régiment immortel, en effet, arrive à la page 150 ou 160, c'est aussi parce que finalement, c'est pour elle un symptôme, enfin, c'est vraiment le régiment immortel, un peu l'apothéose païenne, comme ça, de cette histoire impériale et de cette invincibilité qui aujourd'hui, en effet, renvoie un peu à son histoire. Alors, ce qui est intéressant aussi avec son propos, elle aussi, c'est que elle évoque ses souvenirs d'enfance aussi elle-même, hein, puisqu'il y a quelque chose aussi comme une sorte d'histoire un peu incarnée, située aussi, parce qu'elle y a vécu évidemment beaucoup, longtemps. Et elle éclaire assez bien aussi l'organisation aujourd'hui de ce qu'on appelle le poutinisme, qui est un régime un peu bizarre, une sorte de soviétisme sans communisme, comment Poutine a justement à la fois puisé dans une tradition impériale et en même temps une tradition communiste aussi, et quand même finalement comment il a essayé avec certains idéologues dont elle rappelle le travail, notamment Vladislav Surkov, qui est devenu un peu ce qu'on appelle aujourd'hui son sorte de Rasputin, hein, c'est celui qui a théorisé un peu aujourd'hui la place de la Russie dans le monde, qui notamment théorise l'idée d'une exceptionnalité de la Russie et d'une géopolitique solitaire, comme si la Russie avait vraiment, par essence, l'obligation d'être un seul au monde, contre tous. Et ce qu'elle raconte d'ailleurs notamment sur la manière dont les Russes considèrent tous les autres peuples comme des fascistes, en disant tout et n'importe quoi, hein, les Tchétchènes, les Ukrainiens, c'est quand même assez fou, quoi. Enfin, il y a quelque chose comme c'est d'assez, je trouve, angoissant à lire ça. Et donc, je trouve qu'on apprend des choses quand même, notamment les idéologues de la Russie contemporaine. Donc, il y a Surkov, mais il y a aussi Alexandre Dougin, Alexandre Prokhanov et Sergei Kourginian, qui sont un peu les trois autres qui ont précédé, voilà, Surkov dans cette manière de resituer la Russie dans la cartographie mondiale et d'une manière assez incroyable. Alors après, elle n'évoque pas les questions plus géopolitiques, sur la place de la Russie, notamment en Syrie, etc. Mais bon, en tout cas, sur la cartographie de ce régime, on est quand même assez saisi.
Ouais, c'est rapidement abordé, en effet, Joseph Confavreux, puisque la partie historique, en effet, c'est pas ce qu'il y a de plus novateur dans le livre de Galia Ackermann, qui s'en remet aux travaux Nicolas Vert, par exemple, ou de Besançon sur l'histoire russe. Peut-être venir un peu plus sur cette période contemporaine, autour du régiment immortel, autour de cet embrigadement de la jeunesse russe, à qui on dit, bah voilà, il faut être prêt à mourir pour sa patrie. Vous disiez, il y a quelque chose d'effrayant à la fin. Galia Ackermann dit, aujourd'hui, l'armée russe est modernisée et très entraînée. En plus des manœuvres annuelles, elle a acquis la précieuse expérience du combat. La jeunesse est militarisée, son esprit patriotique, ainsi que celui de la majorité de la population, boosté par l'incessant flot de la propagande. Mais qui est l'ennemi contre lequel la Russie se prépare à se battre? Poutine l'a désigné en 2007 dans son discours de Munich. Cet ennemi, c'est l'OTAN et l'Occident. Ça fait un petit peu peur.
Ah non, mais ça, il y a des moments assez vertigineux. Tout le chapitre qu'elle consacre à la militarisation de la société russe et l'embrigadement très jeune, hein, avec à la fois fondé à la fois sur le fait d'aller rechercher les dépouilles de soldats disparus, mais aussi des entraînements sportifs, des entraînements militaires. Donc on est complètement
des uniformes qu'on offre aux enfants.
On appelle ça la jeune armée. Qui évoque un peu la jeunesse hitlérienne. Hein. Enfin, elle évoque un peu de manière un peu.
Alors moi, c'est sur ça. Ça me gêne un peu, c'est-à-dire que c'est plus un livre qui nous aide à comprendre pourquoi on a des très bonnes raisons d'avoir peur de Poutine que à comprendre le succès de Poutine. Parce qu'elle est quand même dans une lecture, d'ailleurs elle le cite, livre noir du communisme, stalinisme égale hitlérisme, sans se dire qu'il y a quand même... Enfin voilà, elle est dans cette tradition-là, très anticommuniste, et je trouve que ça perce un peu dans son livre, et que du coup on ne comprend pas tout à fait pourquoi, comme ça, Poutine arrive à réhabiliter Staline en dépit de la liste dont elle a raison de dire... non exhaustif des crimes les plus terribles qu'il ait commis. On est enfin pour moi elle est un peu dans un truc de détestation qui fait que on mélange le fait d'acheter un uniforme militaire à son enfant et le fait de racheter au Laos des vieux chars de la Seconde Guerre mondiale pour les exposer dans les défilés militaires. Il y a un côté un peu pot-pourri qui fait que moi je trouve qu'on comprend vraiment pourquoi on a des raisons d'avoir peur, mais pas pourquoi Poutine est comme ça, reste aussi populaire dans son pays.
Mais par exemple, quand elle parle de ces régiments de motards en Harley-Davidson dirigés par le chirurgien, je crois que c'est son nom si mes souvenirs sont bons, c'est vrai que ça fera un très bon reportage, ça, vous avez raison Joseph Confrère. Il y en a déjà sans doute eu d'ailleurs, j'ai pas vérifié, mais on n'est pas forcément impliqué Jean-Marie Durand dans la compréhension de ce qui fait monter des figures comme celle-ci. Voilà comment un motard qui dirige un club de Hells Angels à peu près, voilà, de Harley-Davidson parvient à devenir une figure importante du nationalisme en Russie.
Encore une fois, c'est le recours à l'histoire qui, pour elle, est la manière d'éclairer d'une certaine manière l'actualité, le présent de la Russie. Et c'est vrai que je parlais tout à l'heure un peu d'essentialisation, parce que moi, il y a un petit peu ce risque-là, je trouve que ce piège-là existe, mais
oui,
finalement...
Psychologisation sur ce qu'est l'homo soviétique,
exactement,
forcément, raciste,
voilà,
expansionniste,
supérieur aux autres, invincible, il y a quelque chose comme ça. Mais ce qui est intéressant, c'est de la manière, ce qu'elle analyse, c'est comment finalement le politique peut instrumentaliser l'histoire et comment il peut, à partir finalement d'un récit national, arriver à le tirer et en faire un usage extrêmement puissant. Et c'est vrai que on connaît tous la célèbre phrase du tsar Alexandre III qui disait que la Russie n'a que deux alliés, vous savez, son armée et sa flotte. Et en effet, aujourd'hui, elle a son propre peuple. Alors, c'est ce qu'elle induit, c'est ce qu'elle essaie de nous faire comprendre. Et elle est assez convaincante là-dessus, c'est que à la lire. Moi, je connais pas la société russe. J'avoue, j'y suis jamais allé. Je me repose sur ce que je lis. C'est assez convaincante. Après, on voit bien qu'aujourd'hui, les dissidents russes, quittent le pays, ont du mal à pouvoir.
Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est que malgré tout, ça repose sur une réalité factuelle. Par exemple, l'utilisation du terme fasciste ou nazi à l'encontre des Ukrainiens dans le cas de l'invasion de la Crimée, à dire que voilà, ceux qui sont contre l'invasion de la Crimée par la Russie, les indépendantistes du Donbass, ce sont des fascistes, ça c'est une réalité, Joseph Covray, cette logique, enfin ce discours il existe, le rôle de Russia Today dans la diffusion de fausses informations, de fake news, c'est avéré, le rôle des trolls, du trolling dans un certain nombre d'élections que ce soit en Europe, aux États-Unis, c'est avéré aussi, en tout cas ça semble fortement probable.
Non mais tout ce que dit Galia Kerman est vrai, hein. Je suis pas en train de dire qu'elle raconte n'importe quoi. Tout ce qu'elle dit est vrai et effrayant. on est d'accord. Mais moi, par exemple, je ne comprends pas comment ça marche. Par exemple, elle raconte ça que notamment Poutine, pour forger un peu la mémoire de son soviétisme sans communisme, va rapatrier les restes de notamment du général Denikin, qui était un des grands chefs des armées blanches, dans un monastère de Moscou, va faire revenir la dépouille des États-Unis à Moscou pour célébrer cet homme, de même qu'un philosophe qui s'appelle Ivan Iline, je ne sais pas si je prononce bien, mais qui était un théoricien fasciste, hein, il faut bien le dire, que le régime communiste avait expulsé de Russie. Et donc, on va avoir avec Poutine quelqu'un qui s'arrange pour à la fois réhabiliter Staline et réhabiliter les chefs de l'armée blanche qui se sont battus contre la révolution russe. Et moi, il me reste une question sur comment il fait. Comment ça marche de réécrire l'histoire en la réécrivant avec des gens qui sont à l'opposé complète. Et voilà, et sur ça, je trouve qu'elle n'est pas très satisfaisante, parce que aussi les manières dont elle raconte, moi je trouve que sa cote est un peu mal taillée entre les petites histoires personnelles où elle a deux copains avec qui elle a dîné à Kiev qui vont lui raconter qu'ils sont partis, ou le fait qu'elle a un samovar électrique qui vient d'une usine militaire, et la grande histoire. Alors qu'elle a une histoire personnelle intéressante, elle n'en fait pas grand-chose dans ce livre, c'est vraiment, ça reste anecdotique. Et donc on n'est ni dans la chair de pourquoi est-ce que Poutine... ça marche à ce point-là, ni vraiment dans la grande fresque historique, où à la limite, là, je trouve que Pierre-Jean Louisard fait plus un boulot vraiment d'historien.
Je suis d'accord, elle est dans un entre-deux, mais cet entre-deux est intéressant parce qu'il produit des effets aussi. C'est que je pense que pour un lecteur, disons, un peu intéressé par la Russie, qui essaie de comprendre finalement ce pays un peu étrange pour nous, faut le reconnaître, on apprend des choses. Donc, d'une certaine manière, elle réussit de ce point de vue-là. Et c'est vrai qu'elle hésite entre deux modes de récit. Et au moins, c'est un livre assez facile à lire, et je pense qu'il peut informer beaucoup de gens quand même. Donc, c'est pas du tout un mauvais livre, loin de là. Hein. C'est un livre quand même assez assez pédagogique, quoi. Enfin,
assez pédagogique aussi parce qu'elle évolue au fur et à mesure du livre. Elle le dit à la fin. Quand j'ai commencé à écrire ce livre, je pensais que le régiment immortel était l'expression d'une idée messianique en accord avec la tradition multiséculaire russe qui s'appuyait en permanence sur telle ou telle idée nationale à caractère messianique. Les exemples des différents propos relativement récents que j'ai pu collecter et que je cite dans ce livre me faisaient penser que la nation, ayant vaincu le mal absolu, donc ça c'est le nazisme, se considérait comme porteuse du bien absolu et que c'est au nom de ce bien qu'elle se sentait en droit de conquérir de nouveaux territoires, etc., 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 etc. Et elle dit, ben non, en fait, j'ai changé d'avis, c'était peut-être vrai il y a encore quelques temps, mais aujourd'hui, le vent a de nouveau tourné, et elle nous dit, tout ça, c'est au nom d'une entreprise nationale et géopolitique de Vladimir Poutine, et ça permet aussi de comprendre le rôle, même si c'est pas directement abordé, le rôle de la Russie en Syrie, par exemple, Joseph Confavreux.
Mais je suis d'accord, et en montrant bien comment le régiment mortel aujourd'hui exprime ce sentiment d'unité et de prétendue invincibilité de la Russie. Mais vous confirmez ce que je disais au début, c'est-à-dire qu'on là où on aurait pu avoir un excellent article sur le régiment immortel, on a un livre dont je trouve qu'il a quand même plusieurs faiblesses.
Jean-Marie Durand, sur cette analyse du rôle géopolitique de la Russie aujourd'hui, à la lumière de cette histoire de l'exceptionnalisme, de la longue tradition, sorte de destinée manifeste, on le dit plutôt pour les États-Unis en règle générale, mais voilà, qui transparaît dans l'histoire de la Russie, de Galia Kerman.
Ouais, bah c'est Surkov là qui a théorisé ça, je disais tout à l'heure rapidement. C'est vrai que c'est lui qui essaye de finalement de défendre l'expansion comme une sorte de tendance naturelle, quoi, de la Russie historique. Et c'est en ça que c'est une réactivation comme ça d'un trait, disons, je sais pas si on peut appeler ça un trait immanent ou un trait de caractère. En tout cas, c'est ce que Galia Ackerman tente de nous faire comprendre. C'est qu'il y a quelque chose comme une sorte de volonté ancrée comme ça dans une histoire et qui remonte en effet au tsar et donc au 6e siècle. Donc on voit bien que c'est une très longue histoire. Bon, après, on étudierait l'histoire française, on pourrait aussi arriver à des conclusions, alors évidemment pas équivalentes, mais on peut toujours un petit peu essentialiser des caractères nationaux, c'est toujours un peu une tendance assez facile.
On a tendance à le faire en France aussi.
On a tendance à le France aussi, bien sûr, notre roman national en est la preuve. Et d'ailleurs, les historiens français se sont, ces dernières années, beaucoup mobilisés contre cette tendance-là, en tout cas, contre la possibilité que le politique aurait d'instrumentaliser cette histoire-là. Et il y a même un comité d'usage des histoires, vous connaissez le public, qui s'est créé là-dessus. Donc on voit bien qu'on est... Alors, il manque peut-être aussi ce comité-là, entre guillemets.
Officiellement, en tout cas, elle est loin d'être créée. Ouais. Mais je pense que quand même, là où elle marque des points, c'est dans la puissance du moment nationaliste. Et ça se voit quand elle décrit comment il y a plein de journalistes, dont nous, on connaît pas trop les noms ici, mais qui étaient plutôt pro-occidentaux et qui se sont complètement retournés. Mmh. C'est-à-dire qu'on voit bien que c'est pas simplement Poutine, mais c'est que là, il y a un moment nationaliste qui s'ancre dans tous les milieux de la société russe et qui est effectivement vertigineux. Et ça, je trouve que, après avoir donné quelques critiques, je dois dire qu'elle montre bien des continuités ou des renversements qu'on identifie assez peu. Moi, par exemple, j'ai été surpris de voir à quel point Yeltsin, dont j'avais une image un peu d'ivrogne sympathique en terminant avec la Russie, est en fait celui qui met en place le tournant autoritaire de l'État russe, celui qui met le pied à l'étrier de Vladimir Poutine.
Bien sûr, c'est lui qui veut dire. Ouais.
Et là, on se dit, ah oui, en fait, ce qu'on avait un peu l'image, effectivement, du... voilà, de
oui, les guignols de l'info.
Les guignols de l'info.
Beaucoup influencé et ben non, la vision
en fait, c'est-à-dire que, c'est-à-dire que, en fait, c'est l'effondrement de l'URSS que se structure cet autoritarisme nationaliste dont Poutine est au fond pas seulement le créateur mais aussi l'aboutissement.
Oui, elle le dit bien Galia Ackerman, l'échec de Boris Yeltsin, c'est le retour de l'idée nationale, enfin se solde par le retour de l'idée nationale, cette transition des années 90 qui s'ancre et aussi évidemment dans les années 80 de Gorbatchev, le glasnost qu'elle analyse également, cette période de transparence qui peut-être paradoxalement la période la plus libre de la Russie nous dit-elle, voilà, entre le milieu des années 80 et le milieu des années 90 se solde par ce retour de l'idée nationale et par la Russie telle qu'on la voit aujourd'hui aux mains de Vladimir Poutine. Bah écoutez, on a dit beaucoup de choses, mais il en reste encore beaucoup à découvrir, surtout si vous n'êtes pas des lecteurs et des fins connaisseurs de l'histoire de la Russie, contrairement à Joseph Confavreux qui savait tout, qui connaissait tout. Donc évidemment, il n'a rien découvert
pas du tout
à la lecture
dit.
Du régiment immortel. Vous pouvez vous procurer et lire le régiment immortel, la guerre sacrée de Poutine. C'est donc par Galia Ackerman aux éditions Premier Parallèle.
L'instant critique.
L'instant critique, Joseph Confavreux, est très sérieux pour cet instant critique. Je reconnais la couverture de cette revue Travail, Genre et Société. Et c'est donc de cette revue aux éditions
La Découverte. C'est le dernier numéro, avril 2019.
Nous pouvons parler du Crieur, dont voilà, on va bientôt fêter l'anniversaire, je crois, n'est-ce pas, Joseph Confavreux?
Donc bientôt, les 4 ans, avec le numéro 13, le 13 juin prochain. Mais en attendant cela, vous pouvez lire donc Travail, Genre et Société, parce que effectivement la radio associe davantage sur Internet et la télévision, qu'on n'a pas l'image, mais on a l'imagination. Je ne dirais donc pas à nos centaines, hein, c'est ça, de milliers d'auditeurs, comment vous êtes habillés, Raphaël.
Millions.
Mais je leur conseillerais donc le dossier du dernier numéro de Travail, Genre et Société, cette revue de La Découverte, consacrée aux habits de travail, aux vêtements portés au travail, qu'il s'agisse ou non d'un uniforme réglementaire. Parce qu'en effet, les fonctions, les significations variées de l'uniforme professionnel, qui est le confort, hein, la protection, l'autorité, le grade, le prestige, l'appartenance à un collectif, eh ben, on peut les retrouver pas seulement quand on doit porter, par exemple, une chemise, mais dans tous les usages,
cas, contrairement à vous, Joseph Confavreux,
de vêtements de travail non imposés. Donc, ce dossier répond à plusieurs questions. Hein. Dans quelle mesure un uniforme assure-t-il vraiment un rôle d'uniformisation? Est-ce que les habitudes de genre conduisent les travailleurs des deux sexes à porter de la même manière un uniforme? Ou encore, par-delà l'opposition entre col bleu et col blanc, fameuse, quel attribut vestimentaire souligne-t-il ou invisibilise-t-il, pardon, des distinctions sociales et statutaires au sein d'un espace professionnel. Bref, c'est quelques-unes des questions auxquelles vous aurez des réponses, sachant que l'habit ne fait pas le moine, mais que quand même, ça donne quelques indications
sur
la gueule de l'emploi. Travail, Genre et Société, avril 2019, aux éditions La Découverte, titré Habit de travail.
Oui, en un mot quand même, resituer cette revue, parce qu'on l'aura compris, l'emploi des termes comme habitus, etc., que c'est une revue qui s'inscrit dans une certaine histoire de la sociologie, peut-être.
Histoire de la sociologie et du genre. C'est Margaret Marouani, la directrice éditoriale. C'est aborder le travail à travers les questions de genre, et donc la manière dont les gens s'habillent peut évidemment en faire partie.
Elle avait dirigé un très bon livre aux éditions de La Découverte, déjà justement sur la question des femmes et du travail, il me semble, si mes souvenirs sont bons. Jean-Marie Durand.
Alors c'est intéressant parce que justement...
Vous portez un sweatshirt, vous.
Oui, mais moi je voulais parler d'un livre où justement il est question d'un habit de travail, parce que c'est l'habit de travail qu'a
vous
porté...
Vous êtes concerté avant de venir?
Non, pas du tout. Ah bon. Philippe Artière, qui est donc historien, qui a été associé au Centre Pompidou à l'occasion des 40 ans du Centre Pompidou. Il était l'intellectuel invité pendant l'année 2017, et il sort là chez Manuelet Éditions le Bureau des Archives Populaires, qui est une restitution un peu de son expérience qu'il a menée au Centre Pompidou pendant cet anniversaire, où en fait le Centre Pompidou lui avait demandé d'organiser comme ça un travail d'archives de cette histoire-là. Et Philippe Artière revient un peu sur cette expérience, qui est une expérience assez étrange, entre performance intellectuelle et performance artistique, une sorte de théâtre de poche, où il raconte, Philippe Artière, qui s'est mis comme ça en scène pendant un an, avec une blouse qu'il avait créée. Il a installé un petit bureau au sein du Centre Pompidou, et il a essayé de récupérer comme ça des souvenirs des visiteurs du Centre Pompidou, qui leur racontaient en quoi... l'histoire du centre avait été importante dans leur vie. On apprend plein de choses. Par exemple, il y a beaucoup de verbatim comme ça, de gens qui lui ont répondu, comme par exemple cette magnifique phrase. Je me souviens de l'exposition de Jean-Pierre Reynaud, car à l'époque je vivais avec lui, par exemple. Donc si vous, ce bureau comme ça des archives populaires, c'est pas un bureau direct. Alors il explique que souvent les visiteurs de Centre Pompidou pensaient qu'il était là pour une sorte de monsieur pour aller annoncer les toilettes. On comprenait pas très bien sa fonction, sa
bureau
présence. Voilà, un bureau d'information bizarre. Et il raconte ça. Et donc, il le vit comme une performance artistique. Et ce qui est intéressant, c'est que Philippe Artière est un historien qui a beaucoup travaillé toute sa vie avec beaucoup d'artistes, comme Tino Segal au Palais de Tokyo, avec pour une autre exposition, avec Thomas Hirschhorn au Palais de Tokyo aussi. C'est un historien qui est beaucoup en dialogue avec
donc
le monde de l'art.
Donc, des artistes sont plus du côté de l'installation, de
l'installation, du dialogue avec le monde intellectuel. Et lui, il est vraiment dans cette articulation-là. Et c'est pas un hasard que art se retrouve dans son nom, d'une certaine manière. Je pense qu'inconsciemment, il est habité par cette idée-là. Et Jean-Max Collard, qui l'avait invité, parle de son intelligence plastique. Donc il y a quelque chose d'assez intéressant, de très original dans sa démarche d'historien. Et ce petit livre-là, qui est un livre assez court, qui raconte un peu cette expérience-là, cette expérience d'historien un peu à part, est un livre assez passionnant. Ça s'appelle Le Bureau des Archives Populaires. C'est édité par le Centre Pompidou et Manuela Édition.
Et donc rappelez-nous, c'était quoi l'initiative du Centre Pompidou? Comment ça s'appelle? Parce que je crois que c'est la même à laquelle participe Philippe Mongeau.
Exactement, c'est le service de la parole que dirige Jean-Max Collard, qui l'a invité d'abord Philippe Partir, puis Philippe Mongeau et normalement Paul Pricadou pour la prochaine saison.
Eh bien, c'est un art d'aujourd'hui, pas un art d'hier.
Oh, très très bonne. Joseph Confavreux qui prépare sa reconversion sur RTL vient de faire un magnifique jeu de mots. Merci beaucoup, Joseph Confavreux. Je rappelle les livres dont on a parlé ce soir. Le Régiment Immortel, La Guerre Sacrée de Poutine, c'est chez Premier Parallèle par Galia Ackermann. Pierre-Jean Luisard, La République et l'Islam, aux racines du malentendu, chez Talendier édition. Avis critique, c'est terminé. Attaché d'émission Catherine Donnet, à la réalisation aujourd'hui Vanessa Nadjar, à la prise de son Guillaume Ledu. Cette émission est téléchargeable et réécoutable sur notre site franceculture.fr. Vous pourrez également vous abonner au podcast. Dans quelques instants, Jukebox. Thank you.